J'ai intitulé effectivement cet encouragement « Dieu, le premier en tout ». On l'a dit tout à l'heure, l'un des principes fondamentaux de nos vies, c'est le fait que Dieu doit être le premier en tout. Jérôme nous parlait au niveau de la famille, effectivement, de la hiérarchie qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Dieu doit être le premier en tout dans nos vies. Mais souvent, on a une vision hiérarchique des choses. C'est-à-dire que c'est souvent pyramidal. On imagine Dieu tout en haut et un petit peu bon, l'Église ou bien le monde un peu en bas. Mais je ne pense pas que Dieu voit les choses comme ça. On va essayer de réfléchir autour du verset qui est celui de Matthieu 6, 33. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Amen. Naturellement, vous l'aurez compris, le mot à retenir est « premièrement ». Ça doit être la priorité des priorités. Oubliez cette notion, ça revient à dire que nos vies avec Dieu n'atteindront jamais des sommets. Ça me rappelle en fait une histoire. On va en parler un peu. Est-ce que vous connaissez la personne qui s'est rendue chez un médecin et qui avait mal partout? Elle va voir son médecin. Et puis, face à ça, elle dit, écoutez, docteur, j'ai vraiment mal partout. Le médecin lui dit, c'est assez interpellant quand même. Expliquez-moi. Le médecin, donc est devant le patient. Le patient lui dit, quand j'appuie là, ça me fait mal. Bon, d'accord. Quand j'appuie là, ça me fait mal. Ok, jusqu'à là, c'est quand même particulier. Est-ce que vous pouvez vous retourner et toucher votre dos? Il dit oui. Il touche son dos et dit, quand j'appuie là, ça me fait mal. Le médecin lui dit, il n'y a aucun doute, vous avez un doigt cassé. Et souvent, on est un peu comme ça avec nos vies. C'est-à-dire que peu importe où on appuie, il y aura toujours un problème. Dans nos vies professionnelles, quelquefois dans nos vies de couple, dans nos vies en général, on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. On trouvera toujours un truc qui fait mal, un aspect de nos vies qui fait mal. Et souvent on oublie que c'est parce que Dieu n'a pas été le premier, parce qu'on n'a pas raisonné comme lui le voulait. Amen. Oubliez ça, c'est s'exposer à quelques ennuis. Naturellement, oublier de mettre Dieu en premier, ça ne va pas nous empêcher de faire un bout de chemin. Ça ne va pas non plus nous empêcher de prendre quelques engagements, voire même prendre position par rapport à certaines choses, mais ça va nous empêcher d'aller bien loin. On va faire en fait qu'effleurer la surface de ce que Dieu veut pour nos vies. Bien sûr, on pourra un petit peu rentrer dans le plan de Dieu, mais comme il ne sera pas là en premier, on va assez vite être limité par le fait qu'il ne prend pas toute la place. On sera à 20%, on sera à 30%, on sera quelquefois à 50%, mais on ne sera jamais à 100%. En effet, Dieu ne veut pas être un élément de nos vies parmi tant d'autres, il veut être l'élément principal. Il n'accepte pas la concurrence. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Et il n'accepte pas qu'on ait une relation égale à toutes les autres avec lui. Il ne veut pas qu'il fasse partie de nos vies comme étant un engagement parmi d'autres. On dit, ok, je suis plein de choses, je suis contremaître, je suis un homme, je suis marié et je suis chrétien. Non. Dieu ne conçoit pas les choses comme ça. Nous sommes ses créatures et nous lui appartenons. Et ça, c'est la première des choses. Le reste n'a aucune importance pour lui. Encore une fois, il n'accepte pas la concurrence. L'Éternel est jaloux, on vient de le dire. Quand Dieu a créé l'homme, il a très clairement montré qu'il voulait être le premier. La Bible dit qu'il rejeta l'offrande de Caïn, mais qu'il a reçu favorablement celle d'Abel, son frère, parce qu'Abel avait offert à Dieu le premier-né de son troupeau. Il lui a amené le premier et le meilleur de ce qu'il avait. Encore et encore dans l'Ancien Testament, Dieu disait à son peuple, « Amenez-moi les premiers fruits, les premiers-nés en sacrifice. » En Deutéronome 26, 8, 11, on voit un peu comment ça se passe. Dieu ne veut pas les restes. Dieu ne veut pas ce dont on ne se sert pas dans nos vies. Dieu demande à être le premier. Amen. Ça, c'est encore un autre aspect, je crois. Parce qu'à force d'entendre qu'il est fort dans nos faiblesses, on finit par ne lui confier que les domaines dans lesquels on se sent faible. Les domaines dans lesquels on se sent fort, on oublie quelquefois de lui confier. On se dit, bon, moi ça j'y arrive pas, ou ça j'ai pas envie de m'en occuper, alors tiens, prends ça Seigneur. Le reste, je m'en sors bien, donc je les prends, je vais garder quand même un peu. C'est pas la relation que Dieu veut, c'est pas ce qu'il veut, il veut être le premier en tout. On va voir tout à l'heure un autre aspect de ça. Jésus dit à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2, 4, on peut regarder ensemble. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Ok. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas en premier. Il est écrit aussi en 2 Corinthiens, chapitre 8 et verset 5. Là, il est question de l'église des Macédoniens. On va le prendre. Je vais le prendre complètement. 2 Corinthiens 8, 5. 2 Corinthiens 8, 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Amen. On oublie une chose, on a tout à l'heure parlé de Jésus, c'est un personnage central de nos vies normalement, enfin j'espère. Et lui-même, Jésus était Dieu, et pourtant il n'a pas fait ce qu'il voulait. Il était toujours soumis au Père. À chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre, il s'isolait et il demandait au Père. Pourtant, il n'était pas n'importe qui. Il aurait très bien pu un petit peu faire comme il l'entendait. Il aurait très bien pu dire, bon, j'ai une idée de ce qui va se passer, j'ai une idée du plan de mon Père, je sais à peu près comment faire. Donc, je vais faire comme j'ai envie de faire un petit peu. Et des fois, c'est un peu notre travers. C'est-à-dire que des fois, on est tellement sûr de nous, on est tellement sûr d'avoir compris la parole de Dieu qu'on finit par faire par nous-mêmes, comme si on était en inertie. C'est bon, j'ai compris, maintenant j'y vais. Comme si on avait des comptes à rendre. Alors certes, on en a quelques-uns, on en aura quelques-uns face à Dieu, mais on est un petit peu dans l'optique de dire « Ok, j'ai compris maintenant, et j'y vais. » Mais on ne part pas équipé comme on le voyait tout à l'heure. On sécurise tout dans nos vies. On sécurise nos téléphones, quoique pas toujours. Hein. On sécurise nos maisons, on met des portes, etc. Mais des fois, on a du mal à sécuriser nos vies. On est un petit peu, voilà, hein, on dit « Bon, Dieu me protégera, Dieu... » Oui, oui, mais attention, parce que si fais n'importe quoi, au bout d'un moment, Dieu va te protéger, du moins, il fera en sorte qu'on n'attend pas à ta vie, mais il va quand même t'arriver des bricoles. Cette semaine, j'en ai mal à faire la danse hip-hop, et d'habitude, je fais toujours très attention à ce que je fais, en particulier quand j'ai Nala avec moi, alors en règle générale aussi, mais ma femme pourra vous témoigner que je suis vraiment tête en l'air. Donc je prie pour jamais l'oublier, que je suis tête en l'air. Pas mal, naturellement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je ne vais pas oublier ma douce quand même. Donc, j'ai rentré la voiture dans le box. D'habitude, je fais toujours très attention, etc. Et puis là, je parlais avec Nana. Donc, j'étais persuadé de voir tout fermé. Ok, la soirée se passe, etc. Vers minuit, on entend l'interphone sonner. Un peu interloqué, généralement, les gens ne viennent pas chez moi à minuit. En tout cas, je suis prévenu quand ils viennent. Donc, c'est Rebecca qui va jusqu'à l'interphone. Elle, allô, qu'est-ce qui se passe? Et apparemment, il y a le voisin qui dit la porte de votre box, elle est grande ouverte. La voiture, elle est dedans, il y a tout. Mais c'est quand même bizarre, quoi. Vous avez laissé les clés du box, vous avez laissé le bip du box, tout est comme ça. J'ai trouvé ça bizarre. C'est la première fois. Donc, je me dis, non, c'est une blague. Et j'ai dit, bon, je passe comme d'habitude, hein, je mets une paire de baskets et je trace jusqu'au box. Et je vois qu'effectivement, là, la porte, elle est grande ouverte. La voiture, certes, elle est fermée, et il manque rien. Et je dis alléluia, des fois, voilà, on est tellement assuré de faire bien les choses qu'on est en inertie, on ne vérifie plus. Et on prend des gros risques. Là, Dieu merci, Dieu m'a préservé, il manquait rien, même pas la voiture. Donc, voilà, on n'avait qu'une grâce. Voilà, sauf que maintenant, chaque fois que j'ai rangé la voiture, vous imaginez bien, j'entends, tu vérifieras bien la porte du box. N'est-ce pas, chérie? Revenons à nos affaires. On voit donc effectivement en 2 Corinthiens 8, 5, concernant l'église des Macédoniens, que ses membres contribuaient généreusement parce qu'ils s'étaient d'abord donnés au Seigneur. C'était une condition sine qua non. Si on relit le verset, et on va le faire, dans Matthieu 6, 33, il est marqué « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » On voit qu'il y a un caractère conditionnel. C'est impératif. C'est-à-dire que ce n'est pas « pourrons-vous être », ce n'est pas « seront peut-être », c'est « seront ». C'est une affirmation. Il n'y a pas 36 façons de faire. Amen. J'aime bien le sweatshirt de Steven parce que c'est marqué Amen dessus. C'est vrai? Tourne-toi, lève-toi, tu peux te lever s'il te plaît? Ouais? Voilà, voilà, voilà! Amen! Faut que je m'achète comme ça. Voilà, en Colossiens, encore une fois, on peut lire en Colossiens chapitre 1 et verset 18. Tout le monde y est. Jésus est la tête du corps, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Amen. Quand nous oublions de donner à Dieu et à son Fils cette première place, c'est là que tout commence à dérailler dans nos vies. En fait, tout est une question d'équilibre et de centre de gravité. C'est une émotion que j'expliquais aussi quand j'étais avec les Chinoises. Et j'ai pris un exemple, on va voir ensemble. Avez-vous déjà joué à la pétanque? Alors, je sais que certains, oui. Oui, majoritairement, oui. Qu'est-ce... Non, pas toi. Tout le monde ne peut pas avoir la joie et la grâce de jouer à la pétanque. Ça, c'est un sport de privilégié, tu sais. Je ne sais pas encore. Que se passe-t-il si la boule de pétanque, vous savez que la pétanque, ça joue avec des boules quand même. Elle a plusieurs, machin, une plus petite au milieu, et normalement, les plus grosses doivent se rapprocher le plus près de la plus petite. Voilà pour le principe. Hein. Qu'est-ce qui se passe si la boule avec laquelle on joue n'est pas bien équilibrée? C'est pas compliqué. Hein. Généralement, elle dévie, ou à droite, ou à gauche. En tout cas, elle n'atteint pas son but. Ça, c'est sûr. Elle n'atteint vraiment pas l'endroit où on a visé. Grosso modo, elle ne fait pas ce que vous voulez. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. S'il n'est pas au centre de nos vies, on pourra prendre des directions, mais on va dévier ou à gauche ou à droite. En tout cas, on n'atteindra pas le but vers lequel on a été lancé. Amen. Amen. On voit clairement aussi qu'à force de pas le mettre en premier, on finit par faire des projets et ça se passe pas bien. Encore une fois, vous allez dire que je suis là pour raconter des histoires, mais pas que. Est-ce que vous connaissez justement cette histoire d'un homme et d'une femme qui partent en vacances après une longue année de travail, de dur labeur, on va dire. Et arrivé à l'aéroport, le mari dit à sa femme, j'aurais dû apporter le piano. Sa femme lui dit, pardon. Il dit, oui, si, non, je t'assure, j'aurais dû apporter le piano. Sa femme lui dit, on a 14 valises. On prépare ce voyage, on va partir pendant 2 mois. Tout est prévu. Et toi, tu parles encore du piano. Il dit, non, je t'assure, vraiment. Je sens que j'aurais dû prendre le piano. Sa femme ne comprend pas. Elle lui dit, tu peux m'expliquer pourquoi tu me dis ça? Et le mari lui dit, parce que les passeports sont sur le piano. Là, on voit que ça paraît d'être rien, mais quelquefois, on fait des projets, on prépare tout, on se prépare à l'avance, mais on n'est pas venu avec Dieu. On n'a pas demandé à Dieu. On n'a pas équilibré nos projets avec Dieu au milieu. Alors, cet équilibre, encore une fois, qu'est-ce qui se passe quand on perd l'équilibre? On tombe. On finit par... D'abord commencer on chavire un peu et on finit par tomber. Donc j'ai trouvé cet exemple intéressant parce que si on n'est pas équilibré comme Dieu le veut, quand on va marcher ou quand on va commencer à se déplacer, forcément qu'à un moment donné, on va tomber. Et le problème, c'est qu'on va se demander pourquoi on est tombé. Et on ne va jamais commencer à réfléchir au fait qu'on n'est pas forcément équilibré. Équilibré dans le sens où Dieu n'est pas forcément au milieu de nos vies. Quelquefois, il tient une place importante, il tient une place prépondérante dans nos vies, mais il est en concurrence avec, pour certains, le football, il est en concurrence avec le travail, il peut être en concurrence aussi avec la famille, en tout cas, il est souvent en concurrence avec quelque chose. Il fait partie de nos vies, il peut être très important dans nos vies, mais il n'est pas toujours au centre de nos vies. Est-ce que c'est la manière... Alors, j'ai marqué, Dieu se moque des apparences, de toute façon, il nous connaît. On est bien d'accord. Il ne souhaite pas nous voir toujours en habit du dimanche, seulement le dimanche. C'est-à-dire que souvent on se prépare, hein, on veut se faire tout beau pour le dimanche. Moi-même j'ai fait un effort vestimentairement, dès que je ne suis pas toujours en veste et en chaussures. Si vous n'en doutez pas, je vous le dis. En tout cas, on veut toujours faire un effort. Quand on va voir Dieu, on met des beaux sweatshirts avec marqué « Amen » dessus. En tout cas, on fait un effort, on se présente devant Dieu, et à chaque fois, on est dans cette démarche de faire attention. Mais Dieu nous connaît. C'est-à-dire que Dieu, quand il utilise sa grâce, quelquefois, il nous montre des choses précises. Mais je pense que ce qu'il préférerait, c'est pas nous voir habillés toujours voilà, pour faire belle figure. C'est, de toute façon, il nous connaît, ça sert à rien d'arriver. Alors, c'est pas une raison pour arriver tout nu, hein, mais il se fiche de savoir comment on est habillé. Il nous connaît. Donc, quelquefois, et je pense qu'on le fait rire aussi. Force de venir, c'est que tu crois que parce que tu t'es fait tout beau. Non, s'il te plaît. Voilà, c'est des fois c'est assez amusant de. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Alors vous avez pensé que je suis fou. Il y a peut-être de ça aussi. En effet, pour vous donner une comparaison, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans beaucoup de maisons, il y a souvent deux salons. Ou du moins, il y a souvent deux réelles pièces de vie. En tout cas, chez ma belle-mère, c'est comme ça. Il y a toujours un salon, un vrai salon. Un avec une télé, des divans où la famille passe une grande partie de son temps. Ça peut être la cuisine, ça peut être. En tout cas, une pièce, ce qu'on appelle une pièce de vie. Et une autre avec des fauteuils, la belle vaisselle, hein, quelques jolies décorations, dans lesquelles on reçoit les invités. Ça, c'est une pièce de haut standing. Ce deuxième salon, il est presque. Rose Hélène, elle est morte de rire parce que c'est. Le deuxième salon, personne n'y va, attention, même pas les enfants. Il n'est même pas question qu'ils passent la porte parce que sinon, ça finit en fessé. On ne sait jamais, des fois, qu'il casserait quelque chose. Les enfants ne peuvent pas y jouer. Il est réservé pour les occasions spéciales. Et les invités spéciaux. Quand on reçoit, c'est là qu'on reçoit. C'est vrai ou pas? On appelle cette pièce un living room. Une pièce de vie. Mais personne en général ne s'y relaxe ni vit, en fait. C'est vraiment une pièce, un peu une pièce à part. C'est ce qu'on a de plus beau. Ça devrait pas être appelé un living room. Ça devrait être appelé une salle de réception. On lui a donné un nom, mais ça ne correspond pas à l'usage. Et des fois, c'est un peu pareil avec Dieu. C'est-à-dire que des fois, il a la place, la belle place, la place principale. Hein? On a souvent des belles bibles, voilà, je suis chrétien. Il a souvent une belle place dans nos vies. Mais lui, il se moque de la salle de réception. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans la salle de vie, dans la pièce de vie, dans cette cuisine. Pourquoi là? Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Ben, après, quand même, tu es Dieu, tu ne rentres pas n'importe où quand même, c'est Dieu quand même. Et le Seigneur m'a fait sourire parce qu'il m'a dit, non, moi je veux participer à ta vie au quotidien. Ce n'est pas le living room, ce n'est pas, pas quand tu es bien habillé que simplement je veux t'entendre, ce n'est pas le dimanche quand tu arrives, que tu as fait l'effort vestimentaire, que tu viens et que tu lèves les bras. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, c'est le quotidien. C'est quand tu es énervé parce que tu as perdu ton téléphone que tu tournes vers moi. C'est quand tu as oublié de fermer la porte de ton box que tu te tournes vers moi. Voilà, c'est les choses, c'est le travail au quotidien. C'est ça que Dieu veut. Amen. À votre avis, pourquoi veut-il être présent dans une pièce de vie? Après tout, il nous connaît par cœur. Il partage notre quotidien, il nous connaît. Une vraie question, pourquoi est-ce que Dieu veut être ou habiter dans notre pièce de vie? Vous avez une idée? C'est là qu'on est, c'est là qu'on vit, et surtout, c'est généralement dans ces pièces que sont prises les décisions les plus importantes. Généralement, c'est voilà, dans la maison, quand on est, quand on est dans cette pièce, ça peut être la pièce de vie, quoi, la cuisine, ça peut être. C'est là qu'on parle projet, c'est là qu'on parle budget, c'est là qu'on parle argent, c'est là qu'on parle problème. C'est là généralement qu'on prend des décisions et qu'on prend des directions pour nos vies. Et c'est pour ça qu'il peut être ici. Et pas ailleurs. Il sait très bien que la pièce d'apparat, c'est pour l'apparat. C'est ce qu'on a de mieux, mais c'est pas ce qui l'intéresse. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et je pense qu'il veut que, dans cette pièce de vie, il soit l'élément principal. Dieu veut participer au processus de décision dans nos vies, mais au processus de décision quotidienne, les petites comme les grandes. Pas simplement quand on ne sait pas où aller, juste pour lui demander... Où aller? Pas quand on est un petit peu perdu, pas quand on a envie ou on ne sait plus trop comment faire. Là, on sort la carte Dieu, je ne sais plus trop, alors j'ai demandé à Dieu. Mais si tu avais demandé, tu n'aurais pas eu besoin de ne pas savoir trop. tu saurais déjà et tu saurais où aller. Vous savez, vous avez déjà fait du sport, j'imagine. Il n'y a rien de pire que de se mettre à courir et de s'arrêter. Parce qu'après, pour repartir, c'est très dur. Je parle de reconnaissance. Hein. Souvent, ça vous coupe les pattes. Et avec Dieu, c'est un peu comme ça qu'on fait. On part en courant. Et à un moment donné, on s'arrête parce qu'on ne sait plus où aller. Et on dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je suis parti. Et d'un coup, là, je ne sais plus où aller. On oublie, et je le disais autrefois, qu'un guide, si Christ est notre guide, un guide, généralement, c'est où? C'est devant ou c'est derrière? Généralement, c'est devant. Mais bien souvent, on a pris celui d'un défaut de demander à Dieu la confirmation. C'est bon, hein, c'est bien par là qu'il faut aller. Et là, si on se retourne pour demander confirmation, il n'est plus question de suivre. Plus du tout. Il est question d'être sûr, d'être sur la bonne route. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le suive. Après tout, il a été, la Bible nous le dit, le premier en tout. Amen. Il est celui par qui on a la victoire en tout. Dans tous les domaines, il nous a précédés. Et nous, par orgueil, quelquefois aussi par bêtise, on cherche à le dépasser. Comment on peut aller plus vite que Dieu? C'est une question que je me pose encore. Les questions à me poser sont, est-ce que j'en ai d'abord parlé à Dieu? Est-ce que j'ai vraiment placé Dieu en premier dans ma vie? Dieu veut la primauté de nos décisions. Combien de fois, quand on reprend nos enfants, on leur dit, souvent parce qu'on pense qu'ils ont fait une bêtise, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Pourquoi? Je pensais que je savais. Non, tu ne savais pas. Enfin, visiblement, tu ne savais pas. Je pensais que ça allait aller. De qui dépendent les circonstances? De toi, de moi? Généralement, on agit un peu comme ça. Ça me rappelle encore une fois une histoire, c'est cet homme qui se réveille un peu short au niveau de l'horaire. Il a un avion à prendre, alors il double tout le monde. Et donc il double une voiture qui va très lentement. Et cette voiture, pendant son périple, le suit tout le temps. Il arrive à l'aéroport, il double encore cette voiture, il se gare, il regarde bien la personne qui conduit la voiture un peu lente. Il dit, toi je t'ai reconnu, ok, bouge pas. Je sais que toi t'es lent, c'est pas grave, moi j'avance. Il avance, il double tout le monde dans l'aéroport, il cherche à faire enregistrer ses bagages très vite. Et au bout d'un moment, il voit, vous voyez, sur l'espèce d'escalier là, cette personne-là, tranquillement, marcher. Et il dit, hey, cette personne, elle est vraiment lente. Franchement, elle gêne tout le monde là, c'est pas possible. Des gens comme ça, c'est pas possible. Alors, on en croise quelquefois aussi, ça m'arrive, moi, sur la route, je me demande si ils sont en voyage ou s'ils roulent, en fait, je sais pas. Et ça m'a parlé parce que, quand j'ai vu ça, j'ai appris à réfléchir autrement. Cette personne-là, voyant l'énergie que déployait la deuxième à vouloir toujours doubler, à vouloir toujours aller vite, elle lui dit, mais je peux savoir pourquoi vous courez? L'autre lui dit, parce que je suis un peu short et j'ai peur de rater mon avion. Et cette personne-là lui dit, le pilote de l'avion, c'est moi. L'avion ne va nulle part sans moi. Et des fois, on est un peu pareil avec Dieu. On a l'impression qu'il va pas assez vite. On a l'impression que, je vais y aller. Non. C'est lui le pilote. L'avion va nulle part sans lui. C'est pas la peine de s'énerver. C'est pas la peine de courir. C'est pas la peine de chercher à doubler les autres. Ça sert à rien. Vraiment à rien. On sait tous qu'il y a notre temps et le temps de Dieu. Amen. Voilà. Alors, c'est à nous à nous habituer au temps de Dieu, et c'est pas à Dieu à s'habituer à notre temps. On est bien d'accord. Souvent, je dis à Nala, qui donne les ordres? Elle me dit, c'est toi, mais des fois, je préfère faire. C'est sûr que pour éviter un non, il vaut mieux ne pas demander. C'est beaucoup plus simple. Elle a conscience qu'à la maison, c'est moi qui donne les ordres, même si madame aussi, on est à deux quand même. Mais voilà, elle est consciente qu'elle aimerait bien faire à sa manière quand même. Et voilà, nous, au bout d'un moment, on sait que Dieu est Dieu, mais on se comporte souvent comme des enfants gâtés. C'est-à-dire souvent on fait un peu des caprices parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, on ne l'a pas au bon moment, on aurait voulu l'avoir plus vite, etc. Frères et sœurs, on se demande souvent pourquoi Dieu semble absent quand tout va mal. Mon papa, que j'aime beaucoup, me disait « Quand Dieu te semble lointain, devine qui s'est éloigné. » En effet, quand tout semble aller mal dans nos vies, c'est parce que nous cherchons des réponses dans un système qui le laisse de côté. Si on n'arrive pas à intégrer nos réflexions et si on ne cherche pas des réponses dans quelque chose qui incorpore Dieu comme étant le centre de nos vies, le centre de gravité de nos vies. Vous savez que le centre de gravité, peu importe la vitesse qu'on prend, il ne bouge pas. C'est invariable. Et Dieu veut être ce centre de gravité, Dieu veut être ce centre dans nos vies. Si on le met à gauche, on dévie à gauche. Si on le met à droite, on dévie à droite. Si on le met trop bas, le nez par terre, et on tombe à la renverse si on regarde un petit peu trop haut. Amen. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que nous deviendrons des flèches affûtées. Parce que c'est ce que nous souhaitons être pour Dieu, simplement des instruments, simplement des flèches affûtées, destinées à toucher la cible. Amen. Mais c'est simplement quand son règne, quand ses programmes, quand ses plans passent en premier, que nous recherchons d'abord son point de vue, sa perspective sur les choses, qu'on peut à ce moment-là rentrer dans le plan de Dieu, qu'on peut à ce moment-là rentrer dans ce que Dieu a prévu, parce que sinon, on va prendre de la vitesse, on va dévier, et on va aller ou trop loin, ou pas au bon endroit. Amen. On a souvent envie d'accomplir le plan de Dieu, mais on veut le faire à notre manière, de notre façon. Seigneur, je sais ce que ta parole dit, mais moi j'ai envie de faire autrement, parce que je suis différent. T'es différent de quoi ? La poussière, c'est de la poussière. Amen. Et souvent, on croit qu'on est de la poussière supérieure. Mais l'Éternel, c'est le balai sniffer, il absorbe toutes les poussières. Voilà, on a un peu tendance à être comme ça, c'est-à-dire que on veut faire les choses, on sait ce que Dieu veut, on sait comment il le veut, mais juste pour montrer aux autres qu'on ne fait pas comme tout le monde, on veut le faire à notre manière. On oublie un peu ce que Dieu, pas ce que Dieu veut, mais on oublie un peu ce que Dieu nous demande et la manière dont il nous le demande. Mais il ne faut pas s'y tromper. Il faut rechercher premièrement son royaume et sa justice. Et ensuite, les choses... Alors, la question, c'est comment on fait pour chercher son royaume et sa justice? On l'a dit, c'est changer la perspective qu'on a sur les choses. Mon frère, maintenant, le sait, un téléphone, ça reste un téléphone, même s'il y a la moitié de sa vie dedans. Moi, c'est pareil. Une fois, j'ai failli perdre ma tablette, là. Et j'ai cru que j'allais être décédé. Parce que, premièrement, parce que c'est un cadeau de ma femme. Donc, lui expliquer que, je vous disais tout à l'heure, moi qui n'oublie rien, voilà, j'ai pu, grosso modo, négliger son cadeau et le laisser quelque part. Bon, j'aurais fait la joie de quelqu'un, c'est sûr, mais voilà. Le regard de ma femme, ça aurait pas été facile. En plus, il y avait pas mal d'informations dedans, comme souvent, naturellement. Et là, ça aurait été compliqué. Mais assez vite, je me suis dit, bon. C'est le cas, hein. Je ne peux pas dire grand-chose, c'est perdu. Mais bon, c'est vrai qu'on un peu comme le frère, pendant un petit moment, j'avais un peu les genoux qui tremblent quand même. Pourquoi ? Parce qu'on s'attache à ces choses-là, on s'attache aux choses qu'on met dans nos vies. On finit par donner une place centrale dans nos vies. C'est ça, souvent, on fait plus attention à ce qu'on a que l'endroit où on va pour y aller. Enfin, voilà, souvent, on magnifie l'outil. On ne magnifie pas la personne qui vous l'a donné. Souvent, on est content d'avoir des jolies chaussures, mais on ne veut pas sortir pour marcher. Souvent, on est content d'avoir une jolie vie, mais on a du mal à bénir avec cette vie. Ça me rappelle encore une fois une histoire, vous allez dire qui fait que ça. C'est un homme qui avait deux vaches. Il dit à sa femme, chérie, écoute, le Seigneur nous a bénis. Vraiment. Donc, j'ai une idée. On va vendre une vache pour un peu augmenter le confort de la maison. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses que tu veux, genre des aspirateurs, c'est pas ça. En tout cas, on va augmenter le confort de nos vies avec la première vache. Et la deuxième, pour rendre grâce à l'Éternel, on va la vendre et on va donner le fruit de ça à l'Église. Sa femme lui dit, ok. Lendemain matin, il arrive tout triste. Il dit, la rage de l'Éternel est morte. Pourquoi dans nos vies, dès qu'il y a du temps, quand on voit dans l'agenda s'afficher des choses, la première chose qu'on se demande, c'est « Ah, bon, est-ce que je vais pouvoir y aller ?» Parce que j'ai tellement de trucs à faire. C'est quoi ta priorité? Dieu, il est où? Enfin voilà, après, je dis pas ça pour tout, hein, mais bon. Des fois, on se dit pourquoi le temps qu'on a investi, si on doit revenir sur ce temps, c'est forcément sur le temps de Dieu. Pourquoi c'est forcément sur le temps de l'Église qu'on doit forcément renier? Pourquoi quand on a 20 euros en plus dans la poche, ça passe souvent en habit, en restaurant, quand on dit. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, fondamentalement, on n'a pas, à ce moment-là, hein, c'est pas non plus, à ce moment-là, on n'a pas su placer Dieu au centre des choses. Amen. Il ne faut pas s'y tromper, le royaume de Dieu a des règles. Et on ne les outrepasse pas. En tout cas, on ne les outrepasse pas sans se faire du mal. Est-ce que vous êtes déjà passé dans un enclos à vaches? Vous êtes déjà passé? Il y a des choses... Alors, de loin, il y a des choses qu'on ne voit pas. J'en ai fait les frais. On appelle ça des clôtures. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que les clôtures les plus dures et les plus douloureuses sont celles qu'on ne voit pas. Elles sont électriques. Et j'ai cru bon, alors que je faisais mon footing, de passer par-dessus. Autant vous dire que ça ne s'est pas très bien passé. J'ai senti comme un vibrant courant. Et des fois, c'est un peu comme ça. On n'outrepasse pas les règles de Dieu, même si elles sont implicites, même si ce ne sont pas des barrières physiques, on ne les outrepasse pas sans se faire très mal. Croyez-moi. Ces règles sont justes, amen. Ces règles sont bonnes et elles sont inspirées par la perfection et la sagesse de Dieu. On peut dire amen. Amen. Les suivre mène à la réussite. Cela revient à dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est la sienne. Et la seule façon de faire, c'est de le mettre en premier et au centre de tout. Les autres façons de faire, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille en penser, sont vouées à l'échec. Je vous rappelle, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a un impératif. Mettez en premier Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Souvent, on cherche ce qui peut nous mener à la réussite. On part dans tous les sens et on oublie un peu les fondamentaux. Le royaume de Dieu et sa justice en premier. Peu importe si ça doit nous coûter de l'argent, une place au travail, une promotion. Le royaume de Dieu et sa justice en premier. C'est ainsi que les choses nous seront données par-dessus, la Bible dit. Pourquoi des règles? Parce qu'effectivement, il faut quelquefois nous décider, nous discipliner. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ces règles ne sont pas là pour nous frustrer. Vraiment pas. Elles sont là pour deux choses. Elles ont deux buts, en fait. Premièrement, nous assurer d'être sur le bon chemin. Il n'y a rien de pire que de partir et de ne pas savoir par où passer ni où aller. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne donne qu'une envie, c'est la prochaine fois, j'irai pas. Et des fois, on m'a dit, tiens, j'habite par là-bas, tu verras, c'est facile à trouver. Je cherche encore. Et ça m'a découragé, j'ai arrêté. Bon, d'un moment, tu me donnes une adresse, c'est pas toujours la bonne. Ouais, mais parce que des fois, ça peut changer. Ça peut changer quoi? T'habites dans des endroits qui changent. Enfin bref. Ouais, mais tu sais, des fois, on se réunit dans différents endroits. Ben, donne-moi les différentes adresses. Ça ira plus vite. Et on est un peu comme ça. La manière dont Dieu fait, c'est premièrement pour nous assurer d'être sur le bon chemin. Parce que quelquefois on se trompe, et on n'aime pas se tromper, on a tous du temps, on n'a pas de temps. On n'aime pas perdre son temps. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime pas perdre mon temps. D'autant que la Bible nous dit, le temps est précieux, rachetez-le. Donc le fait de savoir qu'on est sur le bon chemin, ça c'est une des raisons pour lesquelles Dieu utilise des règles. Voilà. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses par-dessus. C'est ça la règle. C'est pas quand tu auras tout par-dessus, tu chercheras le royaume de Dieu et sa justice. Non, c'est pas quand tu auras le temps, si tu veux plus, cherche le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas si on veut plus, c'est si on veut l'essentiel. C'est pas si on veut faire bien, c'est est-ce qu'on suit Dieu ? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Je suis mon maître ». Ça peut être pris de deux manières différentes. Le verbe « suivre » et le verbe « être ». Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça ? Est-ce que nous suivons notre maître ou est-ce que nous sommes notre propre maître ? Est-ce qu'on imagine Dieu dans nos vies comme une option luxueuse ? Comme une manière de dire, attends, hein, on entend souvent, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Ben, toi-même. C'est tout bête. Toi-même. À force de porter des regards qui sont faux, à force de ne pas vouloir suivre les règles de Dieu, c'est toi. C'est toi qui vas te séparer de Dieu tout seul. Amen. Première chose, donc, on a dit, nous assurer d'être sur le bon chemin. La deuxième chose, c'est afin de nous éviter de nous inquiéter inutilement. Ma femme pourra vous le confirmer, je suis inquiet pour tout et pour n'importe quoi. Et souvent, c'est vraiment n'importe quoi. Tout, je suis un anxieux. Je ne sais pas, ça doit être pas d'où ça vient, mais je suis très très anxieux. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu mets des règles, etc. Que je veux bien les suivre, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Est-ce que tu es sûr de toi ? Dieu me dit, qui est qui ? Parce que moi, je suis sûr de moi, tu plaisantes. Ça t'a pas suffi, Jésus, la croix, ça ne suffit pas. Si, si, non, mais je voudrais être sûr. Qu'est-ce que tu voudrais être sûr de quoi ? C'est quoi la foi ? Et des fois, on est un peu comme ça. Des fois, on sait, mais on voudrait être sûr qu'on sait bien ce qu'on sait. Histoire de, pour confirmer ce qu'on sait déjà. On a besoin de confirmation. Non, la Bible nous dit, quand on lit justement Matthieu 6, 33, on peut lire les versets qui précèdent. On va le faire. Matthieu 6, 33, on va prendre le 20, Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Le 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Le 34, celui qui dira après le 33, normalement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On voit donc que ces choses-là sont confirmées. Dieu est un Dieu d'ordre. Il utilise l'ordre, premièrement, pour nous assurer que nous sommes sur le bon chemin. Et deuxièmement, pour éviter que, une fois sur ce chemin, on ne s'inquiète. Voilà pourquoi, quelquefois, on devrait reconsidérer nos positions et s'apercevoir de deux choses. Premièrement, il est le Créateur au sein des créatures. C'est lui qui donne les ordres et c'est nous qui obéissons. C'est pas nous qui donnons les ordres et lui qui obéit. C'est pas lui qui bénit nos projets. C'est nous qui rentrons dans des projets qu'il avait. Amen. Amen. Tout se résume donc à ça. Ne vous inquiétez pas. Il est bon. Amen. En conclusion, je vous dirais que Dieu doit être le premier dans nos vies. Si c'est le cas, alléluia, parce que c'est ainsi que toutes choses vous seront données. Alors ne vous inquiétez de rien. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à recentrer vos vies, à changer ce centre de gravité en mettant Dieu au milieu afin que tout aille mieux. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu veux la primauté de nos vies, Seigneur. Tu nous dis que effectivement tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu omniscient, Seigneur. Tu sais tout, tu es un Dieu omnipotent et tu peux tout, Seigneur. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que nous sommes tes créatures. Et que c'est toi qui donnes les ordres, mon Dieu. Aide-nous à comprendre que pour arriver à la réussite, il y a un certain nombre de marches, un certain nombre de règles à respecter, et que c'est toi qui les fixes. Aide-nous à entrer dans ton plan, Seigneur, en ayant l'assurance que tu es avec nous. C'est ce qui fera que nous ne nous inquiéterons pas, mon Dieu. Merci parce que nous savons que tu es à nos côtés. Aide-nous simplement à ne pas l'oublier. Dans le nom puissant de Christ. Amen.